Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave, elle désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. C'est la 169e émission, je n'en reviens pas, la 169e émission sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Avec Florence au micro, l'émission autour de la chanson et des albums pour enfants. Aujourd'hui, justement, eh bien, le thème, c'est les 25 dernières années. C'est des parutions, un choix de parution. C'est tout à fait arbitraire comme choix, comme d'habitude. Et c'est un choix de parution depuis les 25 dernières années du 21e siècle. Et oui, alors nous n'aurons que des albums illustrés. La môme aux oiseaux d'Henri Meunier, illustré par Régis Lejon. Je dis le nom de l'illustration parce que c'est important, même si on ne l'entend pas à la radio. Édition du Rouergue, l'année, ça y est, je l'ai. L'année, c'est 2003. Voilà, ça sera à partir de 2003. Ensuite, Tommy Ungerer, Ami, 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 I-S, Ami, I-E-S. Tout le monde connaît Tommy Ungerer, c'est toujours à l'école des loisirs et c'est paru en 2007. Ensuite, un ethnoconte, Tarara des Kiribati, c'est chez Glénat. L'auteur s'appelle Abadan et c'est illustré par Elder da Silva. Et c'est à l'origine, c'est suisse. Ensuite, Les cheveux de Fiorello de Cecilia Ruiz, édition des 400 coups. Ça date de l'année dernière. Et puis, pour finir, Le petit prince fragile de Jeanne Terre Kers aux éditions Le Terrier qui a été repris par Albin Michel ou c'est la collection, je ne sais pas. Et là, c'est de 2026. Voilà, nous aurons donc 5 albums d'une taille quand même assez conséquente. Donc, ça prendra toute l'émission. Le CD, c'est Laurent Montagne et Pierre-Yves Serre. Le CD date de 2024 et ça s'appelle Accro aux écrans, ce qui n'est pas notre cas, mais c'est un bon disque que j'ai trouvé dans la radio et que je rendrai à la radio. Laurent Montagne, Pierre-Yves Serre, Accro aux écrans. Eh bien, nous allons commencer la première chanson de Laurent Montagne et Yves Serre. Mon école est un zoo.
J'ai peur qu'il dévore
le cuisinier, le serveur.
Une grande fanfare d'éléphant
s'essouffle dans leur trompette.
Ils aspergent les toilettes.
Oh là là, quel bouffon!
Mon école est un zoo. Y'a plein, y'a plein d'animaux. Mon école est un zoo. Je trouve ça rigolo, je trouve ça rigolo.
Il y a une chauve-souris
sur mes cheveux.
Je crie sauf qu'il peut. J'ai trouvé un long cobra
dans le sac de ma maîtresse.
Elle lance des SOS
et des cris de détresse.
Mon école est un zoo. Y'a plein d'animaux. Mon école est un zoo. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo.
Devient carrément féroce
devant son portrait
que j'ai mal dessiné.
Sous mon bureau, une girafe
s'amuse avec des agrafes.
Aïe aïe aïe, elle se pique dans la classe, qu'elle panique.
Mon école est un zoo. Y'a plein, y'a plein d'animaux.
Pour une gazelle,
je perds mon courage
et m'enfuis à tire d'aile.
Une meute de gorilles
nous lance des pots de bananes
et envoie toutes nos billes
avec leur sarbacane.
Mon école est un zoo. Y'a plein, y'a plein d'animaux. Mon école est un zoo. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo.
Radio Libertaire, nous sommes déjà en avril 2006, exactement le 15 avril 2026, oui, heureusement que j'ai une petite voix à côté qui corrige mes bêtises. 2006, n'importe quoi. La môme aux oiseaux d'Henri Meunier. Alors j'ai un enfant aujourd'hui, j'ai la chance qu'il ait pu venir et nous ferons la lecture à deux.
Bonjour.
Oui, je rapproche, voilà. La môme aux oiseaux de Henri Meunier, illustration de Régis Lejon. Il est très connu cet illustrateur, avec la participation d'Antoine Lejon, édition du Rouergue 2003. Souvent, je suis arrivée en retard à l'école et lorsqu'on me demandait pourquoi, je mentais.
La vérité, c'est que je m'arrêtais. C'est que je m'arrêtais au parc, que je m'y cachais pour admirer la môme aux oiseaux et que je rêvassais après. Longtemps, parfois.
La môme aux oiseaux, elle, ne me connaissait pas. Mais déjà, je la savais ma sœur, ma ponte, mon miel, ma semblable et mon autre.
La môme, c'est mon métronome. Elle venait tous les jours sous le grand cèdre bleu. Un peu avant 9h. Elle jetait un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, un devant, un derrière, pour être sûre d'être seule.
Puis, plus rien. Long moment, immobile, comme cherchant à entendre quelque chose de lointain en elle.
Tapis dans les fourrés, je me faisais tout petit, pour qu'elle ne me voie pas. Je m'enveloppais dans le chahut des feuilles pour qu'elle ne m'entende pas. Je me voulais discret, j'étais seulement timide. Allongée sur le sol, je buvais en secret ce miracle quotidien.
Un miracle de la voir chaque matin après ce long silence, farfouiller dans sa poche d'une main décidée, la ressortir serrée et l'ouvrir brusquement, un oiseau dans la paume. La môme examinait l'oiseau avec minutie, comme pour en connaître chaque plume avant qu'il ne s'envole.
Et l'oiseau qui naissait chaque jour de ses mains n'était jamais le même. Bouffi, petit, commun ou rare, précieux et capricieux, moineau, rossignol, ménate, milan ou paon de Chine, on ne pouvait savoir à l'avance de quelle plume serait faite la volaille.
Ce qui ne changeait pas, c'était ces quatre mots. Vol, 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 vol. Et puis son poing levé, tendu droit vers l'aïeul, vers l'ailleurs, pardon. Et l'oiseau qui montait se perdre dans le ciel, juste au bout de son doigt.
À force de l'écouter, s'écouter longuement, fouiller en elle, à force de la voir arracher un oiseau de son poing, comme on arrache un diamant de sa gangue, de la sentir étudier ses oiseaux, rechercher à le comprendre, lui parler, lui sourire ou lui tirer la langue et le lâcher enfin. J'ai compris. Enfin, je crois.
Je crois que chaque oiseau était un peu d'elle-même, une humeur profonde, la môme du jour, ses états d'âme et de plumes, sa vie, une longue charade en vol. Vol, vol, vol.
Quand son cœur était noir, en sortait un corbeau. S'il était à la fête, un pinson virevoltait, s'échappant de son poing sans attendre son reste. Pour les jours trop communs, un pigeon roucoulait, s'envolait paisamment. Un jour de mai, en sortit un dindon. Je préfère ne pas savoir ce qu'elle avait en tête.
Voler, 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 voler. Humeurs fauves et fières, aigle noir au zénith, impeccable, implacable. Humeurs océanes ou vague envie de vent, splendide fou de bassin, aux palmes bleues turquoises qui d'un battement d'ailes défient déjà Ouessant. Fille tendre en printemps qui gazouille au-dedans, oiseau-mouche qui s'affole d'un caprice des fleurs, envie de trop en dire. Pie, pipelette qui pépille et s'éparpille au loin. Voler, voler, voler.
Depuis le sol, la môme vous dévisage et s'envisage. Pour mieux se voir, elle se regarde de loin, d'en bas et sous d'autres couleurs. Voler souci, voler bonheur. Libre comme l'air, dans l'air, en l'air. La môme est libre aussi quand vous êtes en haut.
Moi, Béa, je restais au sol, prisonnier de moi-même et j'attendais mon heure, l'heure improbable et juste de lui parler. Je n'osais pas.
Pourtant, plusieurs oiseaux s'étaient posés sur moi et je ne me cachais plus depuis longtemps déjà, mais j'avais le cœur chiffonné, le corps accablant et la tête en feu. De ceux qui ne savent pas s'inventer des ailes à l'écart.
Adéquate.
Adéquate. et je rêvais si fort de prendre mon envol. En vue de ce grand jour, je tenais dans mon poing fermé un mot et un œil.
Pas à pas, je m'approchais, regard fixe et joue rouge. Quand enfin, à deux pas, ma main s'est ouverte. La môme s'est saisie du papier et de l'œillet froissé. Sans un mot, sans lire, tout sourire, elle les a mis tous les deux dans sa poche. Dans la poche, aux oiseaux.
Je lui ai dit en bredouillant, « Toi qui es magicienne, donne-moi s'il te plaît quelque chose de nouveau, un lapin, un ourson ou quelque chose de chaud. On n'a pas toujours ce qu'on veut, gamin. » Elle m'a répondu en me prenant la main. Et puis, elle s'est tue.
Juste à ce moment-là, comme sortis de nos doigts, pointèrent deux drôles d'oiseaux venus d'îles lointaines. Des inséparables, ces oiseaux merveilleux qui jamais ne se quittent se sont fondus, paisibles dans notre paysage. Je n'ai rien dit non plus.
Des oiseaux en vol, c'est tout de même plus beau que des paroles en l'air.
Voilà, c'est fini. C'était La môme aux oiseaux, un livre-poème d'Henri Meunier, magnifiquement illustré par Régis Lejon aux éditions du Rouergue 2003. Ça valait 15 euros et ça devrait valoir encore 15 euros. C'était une belle histoire poétique pour commencer la sélection du siècle, du 21e siècle, sur Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter.
Il y a des bus roulants et des voitures sous-marins.
De leur peau d'échappement
sort des roses et du jasmin.
On s'accroche aux tyroliennes
en ville pour se déplacer.
Et des hamsters éoliennes
font de l'électricité.
Nous voilà dans le futur.
Quelle aventure, quelle aventure.
Nous voilà dans le futur.
Quelle aventure, quelle aventure.
En classe on voit des génies.
Thalès nous apprend les maths et Léonard de Vinci
nous donne des cours de street art.
La cour de récréation
devient un parc d'attractions.
Les martiens les jours de fête
nous invitent sur leur planète.
Nous voilà dans le futur.
Quelle aventure, quelle aventure.
Qui amuse tous les enfants
sans prendre de médicaments.
On tape deux fois dans les mains
et bye bye la pollution.
La haine, la guerre et la faim
disparaissent à tout jamais en chanson.
Avant de continuer avec les lectures, je voudrais d'abord présenter le disque de Laurent Montagne et Pierre-Yves Serre, Accro aux écrans. Cet enregistrement est issu d'un atelier scolaire à La Garenne Colombe. C'est en collaboration avec les Ogres de Barbac. Ça, c'est une référence que j'adore. Avec aussi Didier Wompas, Roland Ramad et des arrangements d'Ernest de Jouy, la pochette étant de Vincent Fargas. C'est un spectacle qui fut mis en scène par Wally. Donc c'est de 2024, c'est pas si vieux que ça. On va continuer avec un autre titre, le troisième titre, qui s'appelle
Saperlipopette.
Saperlipopette, mon festival a disparu. Saperlipopette, et personne ne l'a revu. Saperlipopette, mon festival a disparu. Saperlipopette, et personne ne l'a revu.
Il paraît que les acrobates se sont tous trompés de date,
tandis que les spectateurs
ont carrément loupé l'heure.
On a même vu des guitares partir jusque dans le Gard,
et notre magnifique piano
s'est cassé en mille morceaux.
Faire disparaître la grande scène
et la belle voix du chanteur
s'est enfui comme un voleur.
Technicien et bénévole
ont attrapé la rougeole.
Même les clowns sont déprimés
car leurs taxis sont sauvés.
Saperlipopette, mon festival a disparu. Saperlipopette, et personne ne l'a revu. Saperlipopette, mon festival a disparu. Saperlipopette, et personne ne l'a revu.
Comme il n'y a plus d'artistes,
c'est à nous d'entrer en piste,
de jouer les superstars
pour le spectacle ce soir.
Saperlipopette, mon festival est revenu. Saperlipopette, pour tout le monde c'est la fête. Saperlipopette, mon festival est revenu. Saperlipopette, pour tout le monde c'est la fête. Saperlipopette, mon festival est revenu. Saperlipopette, pour tout le monde c'est la fête.
Voilà, c'était donc le disque du jour. Laurent Montagne, Pierre-Yves Serre, Accro aux écrans 2024, avec la collaboration des Ogres de Barbac, de Didier Wompas, etc. Et bien maintenant, nous allons revenir à un classique parmi les plus grands classiques de la littérature jeunesse. Nous avons dit Tommy Ungerer. Ami, ami. C'est un regret qu'il est. Bon, ça fait déjà quelques années qu'il n'est plus de ce monde, Tommy Ungerer. Il était alsacien. Alors, ami, ami. C'est toujours avec ces illustrations très vives, très frites, un peu coquines, plein d'humour. Je commence. Comme elle fut excitante cette journée où Rafi Bamako et ses parents emménagèrent dans leur nouveau quartier.
Dès son plus jeune âge, Rafi avait appris de son père comment manier toutes sortes d'outils. Maintenant, il avait enfin avoir son propre atelier. Rafi aida sa mère à emménager leur nouvelle maison. Il scia, perça, cloua et monta des étagères.
Peu de temps après, Rafi fêta son anniversaire. Tout seul avec ses parents. Comme il était nouveau dans le coin, les autres enfants l'évitaient. Rafi n'avait donc pas d'amis qu'il aurait pu inviter. Comme d'habitude, il reçut un outil en cadeau. Cette année, une nouvelle perceuse. Désormais, il allait même pouvoir percer le métal. Un jour où Rafi se sentait seul, il se dit « Tant pis, si je n'ai pas d'amis, je peux toujours m'en faire. » Et il se construisit un chien et deux chats. Alors, son anniversaire, on va compter le nombre de bougies. 9. C'est donc ses 9 ans.
King Kissing, la petite voisine qui l'entendait bricoler, finit par jeter un coup d'œil par-dessus la clôture. « Qu'est-ce que tu fais ? » demande-t-elle. « Je me fais des amis. »« Je peux t'aider ? » Je sais coudre. Je suis sûre que tes amis auront besoin de vêtements.
Alors, on voit le robot qu'il a commencé à faire. C'est un robot fille. Et ensuite, ensemble, ils partirent à la chasse au trésor. De vieilles chaussettes, des pantalons, des pulls, des gants, ils les rembourraient. Et un ami après l'autre vit le jour, avec ses yeux en balle de ping-pong.
Rafi et King, devenus inséparables,
étaient devenus inséparables.
Souvent, ils mangeaient ensemble. C'est vrai que vous mangez des trucs aussi bizarres que des nids d'hirondelles, des ailerons de requins ou des chiens, voulut savoir Rafi. Je préfère la pizza, Ricky. Mais je peux te montrer comment on mange avec des baguettes. Leurs parents aussi se lièrent d'amitié. Le week-end, ils partaient tous ensemble en excursion. Et peu importe la destination, Rafi et Ki dégotaient toujours et partout des choses intéressantes.
Et là, on voit sur l'image avec des vieilles boîtes de conserve, des bouchons. Enfin, il a transformé ça en cochon rose. La page suivante est non, enfin, elle est illustrée sans texte. Et ils sont au bord de la mer, sur une toute petite crique. Et ils se font un super pique-nique. Et les enfants apportent des trucs, des machins bizarres qu'ils ont trouvés dans des coins, dans les rochers. Puis au fond, on voit un paquebot qui est en train de couler. Un naufrage. Quand Rafi et Ki eurent épuisé toutes leurs ressources, Monsieur Bamako les conduisit à la décharge publique. « Regardez donc ces étrangers !» râla un passant. « Maintenant, ils nous volent même nos déchets !» Rafi et Ki n'étaient jamais à court d'idées.
Bientôt, l'arrière-cour devint trop petite pour toutes leurs créatures.
Ah oui, alors là, c'est vraiment dommage qu'on soit à la radio parce que on voit les créatures qu'ils ont fabriquées, soit en tissu, soit comme des pantins articulés, soit avec absolument tout et n'importe quoi. Ils déménagèrent leurs nouveaux amis dans le petit jardinet devant la maison. Les voisins étaient ébahis. Les enfants du quartier demandaient « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Ce sont nos amis, » répondit Ki. « Fait maison, » ajouta Rafi. Tout d'un coup, tous les enfants eurent envie de participer et de faire de même.
La quincaillerie fut prise d'assaut. On pillait, cave et grenier. Les poubelles furent passées au peigne. Fin à la recherche de choses utilisables. Ils n'épargnèrent pas le moindre boîte en fer blanc. Tous ensemble, les enfants construisirent un cheval de Troie. Jamais ils ne s'étaient autant amusés.
On voit même des adultes qui les aident. Un soir, on sonna à la porte. Dehors, deux hommes, un représentant du ministère de la Santé et un pompier.
« Ce bazar doit disparaître car le risque d'incendie est trop grand »,
annoncèrent-ils. Poliment mais fermement.
Vous avez 3 semaines.
La presse eut vent de l'affaire et journalistes et photographes firent leur apparition. Même la télé s'empara du sujet. Les poubelles au pouvoir. C'est Mozart qu'on assassine. La bureaucratie étouffe le talent.
Des artistes en culottes courtes.
Détritus et méritus.
Puis, il y eut la visite du directeur au musée de la ville.
Du musée de la ville.
Ces sculptures sont sensationnelles, s'exclama-t-il. Cette créativité sauvage, c'est de l'art brut dans sa plus pure expression. J'achète le tout. Ça fera une exposition fantastique.
Dès le lendemain, eut lieu le déménagement. contents et tristes à la fois, Rafi et Ki prirent congé de leurs amis. L'exposition fut un énorme succès. Le duo d'artistes Rafi Ki devint vite la coqueluche de la scène artistique internationale. Et avec les revenus de la vente, les deux amis purent s'installer dans un vrai atelier. Oui, si vous étiez à la... si vous étiez devant l'image, vous verriez qu'il y a Rafi qui tient un chien qui pleure dans ses bras, un chien fait avec des trucs et des machins bizarres. Et ces animaux ont pris vie. Il y a même une poupée en tissu qui est remise à flot par des infirmiers. C'est toujours d'un humour féroce. La page suivante est sans parole. Et là, il y a absolument toute la ville qui vient regarder le spectacle. Oui, il me montre une dame qui a comme boucle d'oreille un pendu. Il y en a une autre qui n'a qu'un seul œil. Il y a un autre qui a des lunettes, et puis ces lunettes, ce sont des briques. Il y en a un autre qui a des trous à la place des yeux. Il y en a un autre qui a une canne qui traverse ses deux oreilles. Une autre dame qui a un doigt bien profondément dans le nez de son voisin. Bon, c'est que ça, Tommy Ungerer.
Plus tard, Ki devient une créatrice de mode, de renommée internationale, et Rafi, un très célèbre sculpteur.
Évidemment, on voit Rafi qui sculpte sur la pierre. Et ils restèrent amis pour la vie.
As-tu bien fait tes devoirs?
Mettras-tu la table ce soir?
Je sais pas.
Pourquoi es-tu en colère?
Finiras-tu par te taire?
Je sais pas.
À qui est donc ce je sais pas? S'interroge tous mes copains.
C'est un ami très sympa, mais ne lui demandez rien.
Il s'énerve, c'est rigolo,
et reprend tout à zéro. Quand arrive l'heure de finir,
je sais pas, ne sais plus quoi dire.
As-tu bien fait tes devoirs?
Mettras-tu la table ce soir?
Je sais pas.
Pourquoi es-tu en colère?
Finiras-tu par te taire?
Je sais pas.
Mais que fait donc ce je sais pas?
Quand il est face à un choix,
est-ce qu'il va dire oui ou non?
Quand on lui pose une question, je sais plus trop et je sais jamais. Ses deux parents adorés
ne sont pas du même avis,
et ça pose de gros soucis. As-tu bien fait tes devoirs? Mettras-tu la table ce soir?
Je sais pas.
Pourquoi es-tu en colère? Finiras-tu par te taire?
Je sais pas.
Je sais pas si, je sais pas ça. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Je sais pas lui, je sais pas moi. Je sais pas ici, je sais pas là. Je sais pas si, je sais pas ça. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Je sais pas lui, je sais pas moi. J'ai pas fini par tes pas. As-tu bien fait tes devoirs? Mettras-tu la table ce soir?
Je sais pas.
Pourquoi es-tu en colère? Finiras-tu par te taire?
Je sais pas.
Mais où est donc ce je sais pas?
Peux-tu l'amener à l'école? Non,
je crois qu'il vaut mieux pas.
La maîtresse deviendrait folle.
Il ne sait pas où il va.
Il ne sait pas d'où il vient. Mais quand quelqu'un dit pourquoi,
je suis pas né jamais très loin.
Je sais pas. Je sais pas.
Et maintenant, un ethnoconte de Abadan, A-D-B-A-D-A-N, illustré par Elder da Silva, chez Glénat Jeunesse, un ethnoconte Tarara des Kiribati. C'est une coédition avec la Fondation culturelle du musée Barbier-Muller, c'est suisse.
La déesse Tarara s'ennuie. Alors, pour se distraire, elle invente le monde. Elle crée la pierre, l'arbre, la tortue, la pieuvre, les vagues, la lune et le soleil. Elle se fabrique un ami, fait naître les hommes et se nomme son monde Kiribati. Mais un jour, tout se dérègle et l'océan menace d'engloutir son île paradisiaque.
Alors, vous comprenez que c'est un conte des origines. Eh bien, nous allons, avant de commencer, écouter le titre qui a donné le nom à l'album, le titre éponyme, « Accro aux écrans ».
Tu as la tête en surchauffe et ton cerveau en bouillie.
Appuie sur le bouton off et des connexions wifi.
Faut sortir faire du roller, mets ton ordi à la benne.
Sinon ton beau processeur
va attraper la migraine.
T'es accro aux écrans, t'as l'écro, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans, t'as l'écro, t'es accro. Tu te reposes.
Tu ne contrôles plus tes actes.
Tu te noies dans ton smartphone.
Et tu perds tous tes contacts.
Ici il n'y a plus personne.
Tu vas finir par bugger
comme une pauvre application.
T'as l'air complètement paumé.
Géolocalisation.
T'es accro aux écrans. T'as l'écran, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps. C'est toi le vrai mort vivant.
Sur Fortnite en mode solo,
tu restes en ligne toute la nuit.
Tu te prends pour un héros.
Demain tu seras un zombie.
Faut que tu fasses une mise à jour.
Tu viens te faire pirater.
Tu n'as plus de vie de secours.
Il vaut mieux tout arrêter.
T'es accro aux écrans. T'as l'écro, t'es accro. Tu ne vas pas passer le temps. C'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans.
YouTube et les vidéos, Snapchat, les réseaux sociaux,
Instagram et même Twitter, on compte tous nos followers.
Mais la maîtresse nous a dit, on s'en va en classe de mai.
Donc les écrans, ça suffit.
Allez plutôt prendre l'air.
T'es accro aux écrans, t'as l'écro, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans.
Un retour à la vraie vie et bye bye le virtuel.
On oublie même les selfies quand la nature est si belle.
Ici c'est écran total, fini les écrans tactiles.
On part tous faire de la wall.
On arrête les jeux débiles.
T'es accro aux écrans, t'as l'écro, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans. T'as l'écrou, t'es accro, t'as envie de faire une pause. Il faut que tu te reposes. T'es accro aux écrans, t'as l'écrou, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant.
Alors, nous allons commencer sur Radio Libertaire dans des cailloux, dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Nous allons commencer ce conte Tarara des Kiribati. D'où vient-il ? Kiribati, c'est une île au milieu de l'océan Pacifique. Imaginez au nord de la Nouvelle-Zélande, à l'est de l'Australie, à l'ouest du Mexique, au milieu d'un carré en gros de que font les îles Marshall, Hawaï, les îles Marquises et la Nouvelle-Calédonie. Voilà, au milieu, il y a Wallis et Futuna, il y a Samoa.
Sur l'équateur.
Oui, c'est exactement sur l'équateur. Il y a Kiribati, exactement sur l'équateur. Eh bien, je commence. Sur l'île nue de sable blanc entourée par l'océan infini, Tarara s'ennuie. Mais Tarara est une déesse. Or, une déesse qui trouve le temps long, ça peut toujours se distraire en inventant le monde. Pour s'amuser, Tarara souffle sur le sable, fort, de plus en plus fort. Et voici que surgit à Batoa la pierre géante qui grandit jusqu'à devenir montagne. Mais une montagne, même accueillante, ça n'est pas bavard et Tarara s'ennuie toujours autant. À force de tourner en rond autour d'Abatoa, Tarara entend le sol résonner sous ses pieds. Il existe des choses là-dessous, elle en est sûre. Du bout de ses ongles, Tarara trace un sillon profond dans le sable. Au creux de ce sillon, elle découvre des choses merveilleuses. Tarara trouve d'abord un arbre gigantesque qu'elle va planter au pied d'Abatoa. Sous l'arbre se cachait la pieuvre. Tarara la salue et lui offre l'océan infini. La frégate, qui était perchée sur une branche, gonfle sa gorge rouge et s'envole. C'est un oiseau, hein. Comme l'océan est triste d'être tout plat, Tarara le caresse et fait naître les vagues. L'océan est si content qu'il promet d'abriter tous les beaux poissons que Tarara fait jaillir du sillon merveilleux. Tarara creuse encore le sable et en extrait la tortue qui rejoint tranquillement l'eau. Tout au fond du sillon, Tarara découvre une créature bizarre. La tête ronde, la taille tordue, la jambe en déséquilibre sur une boule. Comme Tarara ne sait que faire de sa trouvaille, elle la jette loin dans l'océan. Même pour une déesse pleine d'imagination, ce n'est pas facile d'inventer un monde harmonieux. Alors Tarara demande à Nareo, son père, de l'aider. Avec la lumière de son œil gauche, ensemble, ils créent le soleil. Avec l'éclat de son œil droit, ensemble, ils dessinent la lune. Ensuite, Tarara fait se lever le vent sur l'océan et envoie dans le ciel un nuage de gouttes d'eau qui se mettent à scintiller dans le clair de lune. Et voilà comment sont nées les étoiles. Mais Tarara voudrait partager son monde tout neuf avec un véritable ami. Alors, elle ramasse un coquillage trouvé dans le sillon et le lance haut dans le ciel. La frégate, c'est-à-dire l'oiseau, le rattrape en l'air et vient déposer K.O. le nain sur le sable à côté de Tarara. Ensemble, Tarara et K.O. arriment le ciel à la terre. Ils ordonnent au jour de respecter le temps de la nuit et à la nuit de ne pas chipper des heures au jour. Ils demandent à l'océan de ne pas recouvrir la terre car pour être beau, le monde a besoin de l'un comme de l'autre. l'océan promet. Ils inventent finalement des créatures qui leur ressemblent un peu, des humains qui profiteront de ce bel univers et qu'ils installent dans le grand arbre. Chaque élément a maintenant sa place dans le monde de Tarara. Il lui manque juste un nom. Un nom allez, Kiribati. Oui, Tarara décide que ce monde s'appellera Kiribati. Kiribati, Kiribati, Tarara et Kao dansent de joie. Il s'agit tant et si bien que l'arbre au pied de la montagne Abatoa se met à trembler de toutes ses branches. Et voilà que dégringolent par terre les hommes, les femmes et les enfants que Tarara et Kao avaient installés dans l'arbre. Ne se sentant plus en sécurité, les humains décident de quitter Kiribati. Ils embarquent sur des branchages, assemblés et s'enfuient dans l'océan.
Je suis la Saint-Valentin et je lance des flèches magiques. Cupidon est mon copain, plus de chagrin dans ma boutique, plus de chagrin. C'est le printemps, tous nos amis sont des fleurs. On les offre aux beaux amants pour qu'ils nagent en plein bonheur. Qu'ils nagent en plein bonheur. Je suis quand je suis née, tu n'es donc que tu es. Tu es comme tu n'es. Je suis quand je suis née.
Je suis la douce nuit et la lune sort de mon lit. Fais un bisou au soleil qui rougit et s'émerveille. Rougit et s'émerveille.
Je deviens un jour d'été, je fais comme la cigale.
Je chante toute la sainte journée, je dors à la belle étoile. Je dors. Son destino, mes doigts sont des stylos.
Avec les soirs de Noël
et tous les bonhommes de neige,
on fait des tours de manège
sur des traîneaux dans le ciel.
Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, continue l'histoire, l'ethnoconte de Tarara des Kiribati. À Kiribati, le temps s'écoule sans que Tarara et Kao ne se lassent de contempler leur création. Jusqu'au jour où Kao constate que l'océan pousse ses vagues toujours plus loin sur la terre. L'océan ne respecte plus sa parole. Tarara pleure, elle ne comprend pas pourquoi l'océan dévore Kiribati. Le soleil qu'elle a logé dans le ciel devient de plus en plus brûlant. Tarara ne comprend pas non plus pourquoi. Les poissons disparaissent et les oiseaux se taisent. Tarara pleure, ne comprend plus rien. Quand l'arbre finit par avoir ses pieds dans l'eau, Tarara et Kao se réfugient sur les flancs d'Abatoa. De là, ils aperçoivent la tortue qui nage vers eux aussi vite qu'elle le peut. Dans son bec, elle tient l'objet étrange que Tarara avait jeté dans l'océan parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. « Rien n'est inutile dans l'univers !» leur lance la tortue en reprenant son souffle. C'est un point d'interrogation qu'elle tient dans son bec. Grâce au point d'interrogation, Tarara va enfin pouvoir poser des questions et essayer de savoir pourquoi les eaux menacent Kirabati. Tarara brandit le point d'interrogation au-dessus des vagues. « Dis-moi, pourquoi l'océan est-il si agité ?» Mais l'océan lui-même ne connaît pas la réponse. « Va chercher la réponse loin d'ici maintenant que tu sais poser les questions, lui disent en cœur Kao, la pieuvre et la frégate. Mais fais vite, car l'eau ne cesse de monter et Kiribati aura bientôt disparu. » Autour de Tarara, la tempête fait rage. Tarara demande aux vagues pourquoi elles sont si furieuses. C'est la faute aux nuages qui font tomber trop de pluie, répondent les flots. Tarara questionne les nuages. Pourquoi sont-ils si lourds? Ah, c'est la faute du vent qui nous bouscule sans cesse, gémissent les nuages. Tarara appelle le vent. Pourquoi est-il devenu si fou? C'est la faute de la terre si brûlante que je ne peux rester immobile au-dessus d'elle. Au bout de l'océan, de l'autre côté des grandes montagnes, des forêts brûlent. Les fleuves ont la couleur de la cendre. Des monstres d'acier abattent les arbres avant de les tronçonner puis de les emporter. Tarara a si peur qu'elle demande au vent de l'emmener loin vers le nord. Dans les airs, des avions la frôlent. Au sol, des millions de voitures se croisent en tous sens en crachant des gaz gris et poisseux. Tarara suffoque. Tarara veut essayer vers le sud. Là, dans l'image, on voit la forêt qui brûle, on voit les grosses machines et puis des grands immeubles, des gratte-ciels à ne plus savoir qu'en faire et au bout un embouteillage de voitures et des usines qui fument de la fumée pourrie. Le vent l'emporte au-dessus d'un océan où les icebergs fondent dans l'eau tiède. Puis, elle découvre sous elle le désert qui boit les fleuves et engloutit les champs. Partout, les hommes fuient pour ne pas être enfouis sous le sable. Accrochée à son point d'interrogation, Tarara n'est qu'un petit point dans le ciel. Elle regarde le monde que les hommes ont construit après avoir quitté Kiribati. Le feu est le roi de cette terre. Il brûle le bois sous les marmites. Il se gave de charbon pour chauffer les habitations. D'immenses cheminées crachent des flammes. Il consume les déchets des hommes amoncelés autour de leur ville. Le monde des hommes est en train de fondre, se dit Tarara. L'océan, le vent, les nuages ont si chaud qu'ils sont en colère. Et rien ne peut les apaiser. Voilà pourquoi Kiribati disparaît sous les flots. Tarara a posé toutes les questions, mais elle n'a obtenu aucune réponse valable pour expliquer la folie des hommes. Son voyage est terminé. De retour à Kiribati avec son point d'interrogation, Tarara retrouve Kao et la pieuvre serrés sur un dernier rocher. L'arbre a disparu sous l'eau. Seule la tête d'Abatoa dépasse encore des flots. Désespérée, Tarara s'arrête de jeter s'apprête, Tarara s'apprête à jeter de nouveau le point d'interrogation dans l'océan. Mais Kao, la pieuvre et la tortue l'en empêchent. Ils ont besoin de lui pour poser encore une question. Où vont-ils partir? Inventer un nouveau monde? Poussé par le vent, accompagné par la pieuvre, la frégate et la tortue. Le point d'interrogation conduit Tarara et Kao sur l'océan infini vers un avenir plein d'espoir.
Maman a récupéré une vieille armoire au grenier.
Je l'entends bouger la nuit.
Elle dévore tous mes habits.
Ma famille ne me croit pas.
J'en fais part à un ami. Il me dit je connais un gars qui peut régler tes soucis.
Appelle vite ce numéro.
Tu vas voir un type bizarre.
Mais crois-moi c'est un héros. Un vrai dompteur de
placard.
Il porte un drôle de costume. Une armure de chevalier. Une jupe de princesse en plume et des doigts en forme de clé.
Il a un ressort en or.
Sa grande bouche est une serrure.
Un tiroir rempli d'abdos.
Des tatouages comme les gros durs. Le dompteur de placard.
Le dompteur de placard, le dompteur de placard.
Sa mère dompte les nuages et son père vend des avoirs. Lui depuis son plus jeune âge peut s'adresser au tiroir.
Dire les rêves et sa tenue,
parler aux bibliothèques.
Quant au cintre des penderies,
il peut leur clouer le bec.
Rendez-vous à la passerelle,
venez donc voir son spectacle.
Ce sera exceptionnel. Il porte un drôle de costume, une armure de chevalier, une jupe de princesse sans plume et des doigts en forme de clé.
Il a un ressort en dos,
sa grande bouche est une serrure.
Tiroir rempli d'abdos,
des tatouages comme les gros durs. Le dompteur de placard.
Le dompteur de placard.
Le dompteur de placard. Le placard au fond de la classe
ne tient plus vraiment en place.
Pour dix fautes à la dictée, il recrache tous nos cahiers. Et dans les rues de chaque coup, les meubles sont devenus fous.
Ils poursuivent les habitants
et dévorent tous les passants. Vite appeler ce numéro pour arrêter ce cauchemar et voir surgir ce héros, le vrai dompteur de
placard.
Il porte un drôle de costume, une armure de chevalier, une jupe de princesse en plume. Il a un ressort dans le dos. Sa grande bouche est une serrure.
Un tiroir rempli d'abdos. Des tatouages comme les gros durs.
Le dompteur de placard.
Le dompteur de placard.
Le dompteur de placard.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter sur 89.4. Alors, je le dis tout de suite avant de passer à la partie documentaire de ce livre que j'ai trouvé, je crois bien, au musée du Quai Branly. Les deux autres livres que je vous ai racontés tout à l'heure avec l'enfant qui est à côté de moi, La môme aux oiseaux et Ami Ami de Tony Ungerer, eh bien, je les ai trouvés dans une foire aux livres qui est absolument précieuse grâce à l'ami Jean-Louis qui organise plusieurs fois par an la fête du livre noir et rouge, Impasse Crozatier. C'est au métro Reuilly-Diderot ou Federbe-Chaligny, c'est au bout de l'impasse Crozatier. C'est très facile à trouver, une toute petite impasse. Et c'est ce week-end. Ce week-end, c'est-à-dire ce samedi qui vient, ça sera de 10h à 18h et le lendemain, c'est de 10h à 17h, enfin, ou 16h30. Enfin, les horaires sont un peu approximatifs parce que je le tiens de par cœur un peu, mais voilà, à peu près à partir de 10h. Je continue avec ce tonneau-conte qui est un conte des origines, Tarara de Kiribati. Et voici la partie documentaire.
Au milieu du Pacifique.
Baignant dans l'océan Pacifique au nord-est de l'Australie, enjambant à la fois l'équateur et la ligne de changement de date, les Kiribati comptent 33 000 atolls, des petites îles constituées de récifs de corail entourant un lagon et dont certaines, minuscules, apparaissent à peine à la surface de l'eau. Leur peuplement par les austronésiens, c'est-à-dire des populations parlant des langues austronésiennes, présente essentiellement en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Madagascar, à Taïwan et dans l'océan Pacifique. Leur peuplement remonte à au moins 1000 ans, pardon, ça suffit, 1000 ans. La République de Kiribati est née de la réunion de trois archipels, les îles Gilbert, les îles de la Ligne et les îles Phoenix, qui jusqu'en 1979 appartenaient à l'Empire britannique.
Vie quotidienne et alimentation.
Les modes de vie varient d'une île à l'autre en fonction du degré de concentration de la population. Tarawa, l'atoll capitale, constituant le centre politique, économique et administratif du pays, est le plus développé, avec des hôpitaux, des écoles, des commerces, des routes et un aéroport, mais aussi le téléphone et Internet. Pour leur alimentation et les biens matériels qu'ils utilisent, les habitants de Tarawa doivent s'approvisionner à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine notamment, car leurs ressources propres ne sont pas suffisantes. Sur les autres îles, la façon de vivre est restée plus traditionnelle. La majorité de la population vit dans des maisons construites avec des matériaux locaux comme le bois et la feuille de cocotier et ou de pandanus, les plus résistants face au fort vent de tempête. Dans les eaux peu profondes du lagon, à marée haute, les hommes, les femmes et les enfants pêchent au filet des poissons de petite taille. À marée basse, les femmes et les enfants collectent des petits poissons, des crustacés, des coquillages et des vers de sable. Le fruit de ces pêches représente l'apport principal de l'alimentation et il contribue également à l'économie locale car de nombreux pêcheurs vendent leurs poissons de village en village. Les habitants de Kiribati mangent aussi le fruit du pandanus et de l'arbre à pain, la noix de coco qui leur fournit également de l'eau, du lait et le taro des marais, c'est un légume racine. Ce sont les seuls végétaux qui poussent sur le sol pauvre des îles et résistent à la chaleur.
Organisation des villages.
Sur les îles, chaque village est divisé d'est en ouest en bandes de terre. Celles-ci sont réparties entre les différents groupes d'hommes et de femmes appelés Kinga, alors K-I-N-G-A, descendants d'un même ancêtre mythique qui, autrefois, participait à la division des terres et à la création de la maison de réunion, la Maneaba. Chaque Kenga possède des terres proches du lagon. Grands-parents, parents et enfants y vivent ensemble. Chaque village possède sa manéaba, toujours construite parallèle au rivage et à proximité de l'eau. On peut en trouver jusqu'à une quinzaine sur une même île. Ce sont des lieux de discussion où sont prises les grandes décisions relatives à l'organisation de la vie du village. Les membres des Kanga peuvent y exprimer librement leur opinion. On s'en sert également comme refuge et on y accueille les visiteurs de passage. Et on y stocke le copra, l'amande de coco décortiquée, qui est ensuite vendue à l'étranger.
Récit des origines de la vie.
Parmi les histoires de la mythologie des Kiribati, racontant la création du monde par les dieux, on peut évoquer le récit de l'arbre du repos des ancêtres. Peuplé de dieux habitant à la base de son tronc, à son sommet et sur ses branches. Après que les dieux de la base ont coupé le tronc, tous se dispersent et voyagent en pirogue sous-marine ou en pirogue volante. Au terme d'itinéraires parfois compliqués, ils s'installent dans les îles de l'archipel et se consacrent avant tout à la construction de la manéaba, la maison de réunion pour eux et leurs descendants, et à la division des terres. Sur terre ou dans la mer, les lieux considérés comme des traces des passages des dieux sont sacrés.
Réchauffement climatique.
Les changements climatiques exercent de nombreux effets négatifs sur l'environnement. La température de l'air et celle du lagon augmentent. Les sécheresses et les pluies sont plus violentes, les tempêtes plus fréquentes et plus fortes, et les eaux montent. La terre s'érode, devient salée et sa surface rétrécit. L'acidité de l'océan s'intensifie et le corail blanchit. Certaines habitations trop proches du lagon ont dû être déplacées plus à l'intérieur des terres pour ne pas être victimes de la montée des eaux. En plus d'être confrontés à des conditions de vie plus difficiles, les habitants des Kiribati devront, à moyen terme, se réfugier sur d'autres îles. Ils perdront leurs terres et ainsi les repères qui les lient à leurs dieux et sur lesquels se base leur société. Ils deviendront des réfugiés climatiques et seront confrontés aux incertitudes de ne pas savoir où ils pourront aller et comment ils seront reçus. Ça, c'était la partie documentaire de Anne-Noëlle Nardin de la Fondation culturelle du musée Barbier-Muller. C'est en Suisse. Et malheureusement, les réfugiés climatiques, il y en a eu en ces derniers jours. C'est plutôt à Miquelon, du côté du Canada, Saint-Pierre et Miquelon. Et il y a des gens exactement pareils qui ont, à cause de la montée des eaux, ont dû déménager leur maison et se mettre en hauteur, exactement comme les Tarara de Kiribati.
Qui fait trembler toute la classe, c'est Gaspard. Qui a changé toutes les places, c'est Gaspard. Qui a mangé mon cerveau, c'est Gaspard. Qui écrit plein le gros mot, c'est Gaspard.
Il a cassé mes crayons
et jonglé avec nos tables.
Il mélange tous nos prénoms, il est pas très raisonnable.
Il dévore tout mon goût.
Et dérègle la pendule.
Il a changé la dictée.
Oublié les majuscules. Qui a volé la maîtresse, c'est Gaspard. Mis des pubelles sous les fesses, c'est Gaspard.
Qui déchire tous nos cahiers,
bah, c'est Gaspard. Qui fait grincer le parquet, c'est Gaspard.
C'est un fantôme rigolo.
Sans arrêt,
c'est un véritable farceur.
Il espère nous effrayer,
mais on n'a pas vraiment peur.
Non, 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 non.
Qui patine sur le plancher, c'est Gaspard.
la classe.
C'est Gaspard.
Bah ouais. Qui a changé toutes les places, ben
c'est Gaspard.
C'est Gaspard.
Qui a mangé mon cerveau. C'est Gaspard.
Oh, Gaspard.
Qui écrit plein de gros mots. C'est Gaspard.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et maintenant, deux livres qui sont beaucoup plus récents. Le dernier était de 2017, puisque nous avons dit que les 25 dernières années, c'est un choix de livres. Eh bien, maintenant, les deux livres qui suivent m'ont été prêtés par le comité de lecture du Salon du Livre et ils sont tout récents. Ils datent de 2025 et 2026. D'abord, Les cheveux de Monsieur Fiorello par Cecilia Ruiz, édition Les 400 coups.
Monsieur Fiorello était fier de ses cheveux bouclés, mais un beau jour, il s'est aperçu qu'il n'avait plus que 3 cheveux sur la tête.
Les cheveux de Monsieur Fiorello nous invitent à accepter le changement. Ça vaut 17 euros. C'est un changement qui est un peu associé au vieillissement et c'est effectivement dur à supporter. Alors, c'est des illustrations très fraîches et il y a une dédicace. La dédicace à mon père, à sa tête sans cheveux, mais surtout à son cœur immensément grand.
Il y a déjà eu des cheveux sur la tête de Monsieur Fiorello.
Des cheveux épais, brillants et bouclés, qui encadraient et mettaient en valeur le visage bien rond de Monsieur Fiorello.
Toute la journée, les cheveux de Monsieur Fiorello flottaient et virevoltaient en vent. Et la nuit, ils étaient l'oreiller où reposait sa tête pendant qu'il rêvait.
Monsieur Fiorello aimait ses cheveux et souhaitait ne jamais les voir partir. Ah, pardon.
Mais parfois, ce qu'on aime le plus, ce qu'on voudrait garder pour toujours.
Part, malgré tout.
Un beau jour, Monsieur Fiorello s'est aperçu qu'il n'avait plus que 3 cheveux sur la tête. Monsieur Fiorello les appréciait, mais il ne faisait qu'attirer l'attention de son crâne chauve.
Les jours de vent, ses 3 cheveux s'agitaient. Les jours de fête, les jours de pluie, il frisait. Et les jours de fête, il faisait rire les gens.
C'est injuste. Pourquoi n'était-il pas parti avec les autres?
Monsieur Fiorello a tenté de les couper court. Mais les 3 petits brins ont rapidement repoussé. C'est encore plus long.
Il a voulu les raser. Mais ils se sont transformés en pics pointus. Monsieur Fiorello a essayé de les éliminer. D'abord un à la fois, puis tous en même temps.
Cela n'a fait qu'énerver tout le monde. Y compris lui-même d'ailleurs.
Monsieur Fiorello a tout essayé. Le béret, la casquette, le bandeau de tennisman, le chapeau, le deuxième béret, encore un chapeau, le chapeau. Hélas, rien ne semblait fonctionner.
Il a alors abandonné, décidé d'ignorer les 3 cheveux sur le dessus de sa tête. On le voit quand même à l'arrière, il a un catogan. Donc il lui reste quand même quelques cheveux à l'arrière. Le jour où il a commencé à accepter ce qu'il avait... Tiens, il y a un cheveu qui s'envole.
Et à lâcher prise sur ce qu'il ne pouvait pas se contrôler. Ah, plus qu'un cheveu.
Les trois cheveux sur la tête de Monsieur Fiorello sont tombés.
Et quand il s'est aperçu qu'ils étaient partis, trois larmes ont coulé sur la joue de Monsieur Fiorello.
Il ne pouvait dire si c'était des larmes de joie ou des larmes de chagrin. Et là, on le voit en train de boire un café. Il y a quatre images. Il est d'abord tout triste devant son café, puis il pleut dehors, et puis tout d'un coup, le soleil revient et il va regarder à la fenêtre. Et là, on est dehors et on voit Monsieur Fiorello qui regarde à la fenêtre.
Il savait simplement
que le temps était venu de laisser de nouvelles choses. Là, on le voit en train de jardiner.
Prendre racine.
Et on voit sur les arbres les bourgeons et les feuilles qui poussent. Je crois que j'ai oublié une feuille.
Non, c'est une double.
Germer. Et grandir, oui, voilà. Alors là, c'est une quadruple page qui se replie. Il y a beaucoup de dessins et très peu de texte. Mais bon, c'est magnifique. On voit tout ce qui a poussé dans le jardin de Monsieur Fiorello et puis les voisins qui viennent lui dire bonjour. Voilà, c'est terminé. Bon, c'est un livre assez court qui est très, très visuel. Et qui vaut 17 euros. Et c'est aux éditions des 400 coups. Et c'est donc quelque chose que vous pouvez trouver sans difficulté en librairie. Les cheveux de Monsieur Fiorello, pour aider à grandir, à vieillir et faire pousser des plantes quand on voit que ses cheveux ne poussent plus et tombent. Des illustrations très colorées, très fraîches, à recommander. J'ai oublié de dire, Cécilia Ruiz, aux éditions Les 400 coups.
J'ai toujours un truc à dire.
Je parle sans lever le doigt.
Je réagis sans réfléchir.
Et je raconte n'importe quoi.
Je coupe la parole sans cesse.
Ah ouais. Puis m'endort toute la journée.
Faut dire que le boulot me stresse.
Moi je préfère la récré.
Big bazar, c'est le big big bazar. Big bazar, c'est le big big bazar. Big bazar, c'est le big big bazar.
À la course, je suis imbattable.
Et en sport, un vrai champion.
Mais je connais pas mes tables.
De multiplication.
Dans la classe, c'est un enfer.
On se lève, on fait du bruit.
Les chaises se retrouvent par terre.
On sème la zizanie.
Big, big bazar, c'est le big, big bazar. Big, big bazar, c'est le big, big bazar. Big, big bazar, c'est le big, big bazar.
La maîtresse nous met dehors.
Elle pourrait en profiter
pour ranger toutes ses affaires.
Ça c'est sûr.
Mais à force de s'énerver,
voilà qu'elle se roule par terre.
Big bazar, c'est le big big bazar. Big bazar, c'est le big big bazar. Big bazar.
bazar, c'est le big big bazar. Big big bazar, c'est le big big bazar. Big big bazar, c'est le big big bazar. Big big bazar, c'est le big big bazar.
C'est parti.
Si elle s'appelait Mozart, nous serions tous des génies. À la place de nos devoirs,
on jouerait des symphonies.
Pour les noces de Figaro, on viderait le frigo.
Requiem pour une pizza,
Jumbo et Mozzarella.
Mon école est musicienne, elle s'appelle Beethoven.
Mon école est musicienne.
Si elle s'appelait Bob Marley, on danserait le reggae.
Au lieu d'être montpelliérain, nous serions jamaïcains.
Si Brassens c'était son nom, on écrirait des chansons.
Et tous les copains d'abord
nous gratteraient les bons accords.
Mon école est musicienne, elle s'appelle Beethoven.
Mon école est musicienne.
Si elle s'appelait Sinatra,
on aurait tous une belle voix.
La justesse dans la peau,
une bonne note aux interros.
Oh, si son nom était Johnny, le cartable serait des guitares.
Et quand tomberait la nuit,
un chanteur est noir, c'est noir.
Mon école est musicienne, elle s'appelle Beethoven.
Mon école est musicienne.
Si c'était Tino Rossi, on viendrait tous en traîneau.
Beaucoup de cadeaux.
Si elle s'appelait Claude François,
Alexandrie, Alexandra,
les maîtresses seraient les Claudettes.
Ça serait tous les jours la fête.
Mon école est musicienne, elle s'appelle Beethoven.
Mon école est musicienne.
Si c'était Michael Jackson, la musique serait l'enfer.
Un moonwalk quand ça sonne,
on écrirait à l'envers.
Si elle s'appelait Vivaldi,
hiver, automne, Dorémy,
on jouerait les quatre saisons.
Nos cahiers comme partition.
Mon école est musicienne, elle s'appelle Beethoven.
Mon école est musicienne.
Mon école, mon école, de mon pays jusqu'à Vienne.
Mon école est musicienne.
Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste 89.4, eh bien, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Nous sommes en avril 2026, le 15 avril même, et c'est la 169e émission mensuelle. Maintenant, Le Petit Prince Fragile de Jeanne Sterkers aux éditions Le Terrier, qui a été repris par Albin Michel Jeunesse, ou alors c'est la collection, je n'en sais rien.
C'était l'histoire d'un tout petit prince, un prince de rien du tout, pas plus grand qu'un clou, un petit prince fragile.
Et oui, c'est écrit de plus en plus petit, c'est pour ça qu'on vous parle de plus en plus petit. C'était l'histoire d'un tout petit prince, un prince de rien du tout, pas plus grand qu'un clou, un petit prince fragile.
Sa sereine mère lui répétait continuellement qu'il était comme du cristal, délicat et très précieux.
Avant sa naissance, le château était rempli d'angles obtus, coupants, saillants. À son arrivée, les reines mères les firent recouvrir de matériaux doux comme de la soie pour protéger.
Mais le petit prince fragile s'ennuyait souvent. Il n'avait pas le droit de rien, ni de jouer au ballon, ni d'aller chez son voisin, Félicien, ni même d'avoir un chien. Trop dangereux, disait ses mamans. Tu risquerais de te casser en mille morceaux. 1000 pensait le petit prince fragile. C'est beaucoup. Il ne pouvait pas compter jusque-là. Ça lui donnait le vertige. Alors, il regardait par la fenêtre le monde avancer.
Aujourd'hui, le petit prince fragile est de sortie dans son royal carrosse. Mais alors qu'il arrive au carrefour du vieux saule, une grande secousse l'arrête net et manque de le faire dégringoler.
Nom d'une purée de poids, sortez de là, crie une voix à l'extérieur de la voiture. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? S'étonne le petit prince fragile. Oh les mains, peau de lapin, continue la voix. Nous sommes les brigands des petits chemins.
Les brigandes?
Les brigandes des petits chemins. Perlimpinpin, et nous allons vous kidnapper. Pas de chichi. Si vous ne voulez pas finir en ravioli.
Sous le regard pétrifié du chauffeur, elles enlevèrent le petit prince fragile et l'emmenèrent dans leur repère. Qu'allez-vous faire de moi? Lui questionna-t-il, pas très rassuré. Mes parentes vont envoyer tous les habitants du palais à ma recherche de plus. Les brigandes trouvent que ce petit prince parle trop. Tout ce charabia leur donne mal à la tête, elles l'ont interrompu, et elles sortent se mettre les idées au clair.
C'est la première fois qu'elles enlèvent un prince. En fait, elles n'ont jamais enlevé personne jusque-là. Elles ne connaissent pas vraiment la marche à suivre. Mais elles se disent qu'un prince, même tout petit, ça doit valoir un beau paquet d'or. Elles décident d'envoyer une missive au palais pour demander une rançon. 1000 pièces d'or, si vous voulez récupérer votre petit prince, dit la lettre.
Malheureusement, le corbeau messager chargé de remettre la lettre au château a perdu son chemin au cœur de la très grande forêt. Sans nouvelles de leur enfant chéri, les reines mères sont inconsolables.
Les jours passent et le petit prince fragile a de moins en moins envie de retourner au palais. Certes, ses parents lui manquent, mais ici, personne ne lui interdit quoi que ce soit, ses parentes. Il peut enfin grimper aux arbres, courir à cloche-pied. Il a même appris à monter à poney. Il en oublie qu'il est un petit prince fragile et espère secrètement devenir une farouche brigande.
D'ailleurs, il est tout heureux car aujourd'hui commence son apprentissage. Il reste un peu à l'écart, il est encore en stage d'observation. Alors là, sur les images, il faut en parler parce qu'on le voit en train d'apprendre à faire avancer le carrosse, mais il se casse la figure, son cheval se cabre, les brigandes font semblant de l'attaquer et montent sur le cheval. Au loin, une belle voiture approche, les brigandes se préparent à aller la détrousser, mais le petit prince fragile la reconnaît. C'est le grand carrosse royal de ses reines-mères. Cette fois, c'est plus un jeu du tout.
Il veut stopper les brigandes, les prévenir, mais il est déjà trop tard. Celles-ci s'élancent déjà de la colline. Que faire? Les brigandes lui ont intimé l'ordre de les attendre, mais il ne peut pas les laisser. Ses reines-mères se faire attaquer, même son poney commence à s'agiter.
Sans que le petit prince ne l'ait décidé, celui-ci s'élance à la suite des brigandes et se met à galoper à toute allure. S'affichent les chocottes au petit cavalier. Le voilà qui glisse de l'impétueux poney et tente de se rattraper à sa crinière. Mais trop tard. Bim! Il tombe à terre.
En bas de la vallée, le temps s'est arrêté. Plus un bruit. Le petit prince fragile est cassé en 1000 morceaux. Tout éparpillé sur le sol, 1000 morceaux, ça fait beaucoup. Éploré, tout le monde s'est rassemblé autour du petit prince brisé.
Soudain, l'une des brigandes a une idée. Elle se dirige vers leur coffre au trésor et en extrait un tas de pièces d'or. D'un regard, les deux autres comprennent. L'une apporte la marmite, la dernière allume un feu et les voilà qui font fondre les pièces jusqu'à ce que cela forme une grande soupe dorée.
Elles rassemblent ensuite chaque morceau, les remettent dans l'ordre et les collent à l'aide d'un pinceau trempé dans la soupe d'or. Une fois tous les morceaux en place, l'assemblée retient son souffle.
Le petit prince cligne un œil, puis deux. Il semble se réveiller d'un long sommeil. Un peu étourdi, il est étonné, mais ravi de voir autour de lui ses reines mères aux côtés des brigandes.
Les reines mères sont folles de joie. Leur enfant chéri est en vie. Elles le prennent dans leurs bras et l'étreignent fougueusement, comme elles ne l'avaient jamais fait auparavant. À ce moment-là, l'une des brigandes prend la parole. « Petit prince, fragile, tu n'es plus si petit. Tu as prouvé que tu étais aussi courageux et sensible qu'une vraie brigande. Si tu le souhaites, tu as ta place parmi nous. » Et elle offre au petit prince une paire de bottes semblables aux leurs.
Sans hésiter, le petit prince les enfile et tourne, et se tourne vers ses mères. « Mes chères mamans, me voilà devenu grand. Je vous aime. » Mais l'aventure m'appelle. Promis, je vous enverrai des cartes postales. Les reines mères acceptent alors de le laisser repartir, à condition qu'il soit rentré pour l'heure du goûter.
Si vous vous aventurez sur les chemins qui mènent au royaume, ne craignez plus de vous faire détrousser. On ne trouve plus aucune brigande dans ces contrées. Mais peut-être apercevez-vous, au détour d'un sentier, une drôle de petite troupe armée de pinceaux appliqués à redonner de l'éclat aux choses brisées, cassées, fracturées, oubliées.
Et voilà, c'était l'histoire d'un tout petit prince de rien du tout, le petit prince fragile de Jeanne Sterker. C'est très original, cette histoire, chez Albin Michel Jeunesse, collection Le Terrier. 15 €.
Tu es un super sprinter, tu cours à 2000 à l'heure.
Et ne te font pas peur, comme le vent tu les effleures.
Au moment du tour de piste, tu déclenches tes réacteurs.
Et comme tous les grands artistes, tu enflammes les spectateurs.
Kevin Mayer.
Pour le concours en longueur, tu t'envoles tes l'implaneur.
Pour le saut en hauteur, tu deviens aviateur.
Et tout en haut de ta perche, tu restes en apesanteur.
Si les spectateurs te cherchent, vaut mieux qu'ils prennent l'ascenseur.
Kevin Mayer.
Ton disque a bobo au cœur quand il tourne à 1000 à l'heure.
Au décathlon, pas d'erreur, t'es le plus fort des lanceurs.
Tu lèves le poing comme une plume, t'as l'allure d'un gladiateur.
Ton javelot fend la brume, Kéké, c'est toi le winner.
Kevin Mayer.
Très bonheur, le corps couvert de sueur.
Tu surpasses la douleur, t'es un vrai compétiteur.
Tu vas au bout de tes rêves, même quand survient un malheur.
À chaque fois tu te relèves, nous sommes tous admirateurs.
Kevin Mayer.
Tu montres tes émotions et quand devant nous tu pleures.
Tu deviens plus qu'un champion et tu nous touches en plein cœur.
Tu l'auras bien deviné si cette chanson rime en heure.
On l'a un peu fait exprès, on veut te dire tout son cœur.
Kevin, c'est toi le mec. Kevin, c'est toi le mec.
Alors, là, je voudrais quand même avoir un peu l'esprit critique par rapport aux chansons, ce disque que j'aime bien. Là, la musique est entraînante. Mais bon, je ne suis pas du tout dans la compétition, être le meilleur, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas l'esprit des cailloux dans l'engrenage. Mais bon, c'est de plus en plus prégnant quand même la compétition. Et c'est un peu catastrophique. Et j'aimerais qu'on ait quand même un peu une réflexion critique vis-à-vis de ça. Bon, régulièrement, j'en parle dans les émissions. Mais là, quel est l'intérêt qu'il y en ait un qui soit le meilleur que les autres ? Quand il y a un gagnant, il y a des milliers de perdants. Et ce n'est pas du tout l'esprit de l'égalité et de l'épanouissement de chacun. Maintenant, après ce petit passage énervé, voici, alors j'avais un autre album que j'ai oublié, comme ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai aussi un petit livre que j'ai trouvé à la librairie Publico. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, ni maître de la Fédération anarchiste. Il y a une librairie de la Fédération anarchiste qui s'appelle la librairie Publico et qui est 145 rue Amelot, dans le 11e, la librairie aux 3 métros, c'est-à-dire République, Fille du Calvaire et Oberkampf. Il y a un tout petit bouquin jaune qui vaut 8 euros et qui parle de Jean Petit qui danse. C'est une histoire à l'origine d'une chanson pour enfants. C'est une histoire qui date de 1643. Alors moi, j'ai fait danser des enfants, petits ou plus grands, des enfants pour leur apprendre le français. Est-ce que vous connaissez cette chanson ? Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, avec le doigt il danse, avec le doigt il danse, avec le doigt, 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 ainsi danse Jean Petit. Et alors, toutes les parties du corps on peut inventer toutes les parties du corps. Et en ronde, ça fonctionne très bien avec des enfants très jeunes de maternelle, mais ça fonctionne très bien aussi avec des plus grandes d'élémentaires qui apprennent le français. En fait, ça, c'est étonnant comme ça fonctionne bien. Et cette chanson, j'ai dû la raconter, la faire chanter absolument tous les ans, parce que j'avais toujours des enfants allophones. Et j'ai découvert un jour l'histoire à l'origine de cette chanson. Eh bien, elle est horrible, cette histoire. Et ce petit bouquin qui vaut 8 euros, qu'on peut trouver à Publico, donc, et de Franck Thiriot dans la collection Les Nuits Rouges. Je ne connais pas cette collection. C'est paru en 2025. C'est peut-être même une maison d'édition. Oui, c'est une maison d'édition. Les Nuits Rouges. C'est à Marolles, en Urepoix, dans le 91. Eh bien, voilà ce que dit la quatrième de couverture. Beaucoup connaissent la chanson « Jean Petit qui danse », comptine pour enfants qui permet d'énumérer les parties du corps. De son doigt, il danse. De son bras, il danse. De son pied, il danse. Etc. Mais d'où vient cette chanson et quel est son but initial ? Je continue de lire la quatrième de couverture. Une révolte du XVIIe siècle contre les impôts et la répression très violente qui suivit est le supplice de la roue. Vous savez ce que c'est le supplice de la roue ? On met une personne sur une roue et puis on démantèle ses membres comme ça. Consistant à briser un à un les membres du condamné. Telle est l'origine de la chanson créée pour perpétuer le souvenir des condamnés qui devait être effacé de la mémoire des hommes. En 1643, au milieu du XVIIe siècle, donc à Villefranche-de-Rouergue, les paysans, menés par un certain Jean Petit, se révoltèrent et obtinrent dans un premier temps d'être dispensés d'impôts. d'impôts. C'était au milieu du XVIIe siècle et ça a été une période, Louis XIII, Louis XIV, une période où il y avait beaucoup de guerres et beaucoup de famines. Sous Louis XIV, c'est à peu près la période où il y a eu le plus de famines et où les paysans ont été le plus affamés. Oui, c'est le même mot. Alors, à Villefranche de Rouergue, les paysans menés par un certain Jean Petit se révoltèrent et optèrent dans un premier temps d'être dispensés d'impôts. Mais la répression les rattrapa et les meneurs furent condamnés et exécutés sur la place publique. Alors, pour ne pas oublier, on créa la chanson. Ce furent probablement les femmes qui, s'occupant des enfants, devaient les distraire, notamment en leur chantant des berceuses ou des comptines, qui la conçurent, ces femmes, oui, qui la conçurent, peut-être à partir d'un air préexistant, on ne sait pas. C'est ainsi que Jean Petit qui danse vit le jour. Ce livre raconte l'histoire de l'homme et de la chanson qui porte son nom. Et ce petit bouquin vaut 8 euros. Et non, je n'ai pas fini. Je vais vous dire les quelques passages et surtout, il faut absolument mettre une chanson. Oui, tu as raison. Allez, on met une chanson.
Un requin marteau, oh oh,
qui tape sur des poissons clous.
Dans ce très court livre, mais vraiment très passionnant, il y a, enfin, je sais pas combien il y a de pages, il y en a moins de 60, il y a 58 pages. Il y a, à l'angle d'une maison au cœur de Villefranche de Rouergue, dans le département de l'Aveyron, une place Jean Petit, tout près de la place Notre-Dame. Et l'espace au sol est juste assez grand pour deux voitures et quelques vélos. Et c'est aussi discret qu'un recoin de la mémoire collective. Un air de rien, jamais couturé, un angle brutalement arraché à l'alignement des bâtiments, de la rue Camille Roch au numéro 10, une plaie béante où s'est engouffré un pan douloureux de l'histoire populaire. la modeste chaumière du fameux Jean Petit qui danse de la comptine enfantine était là, rasée de par le roi R.O.Y. à l'époque, jusqu'aux fondations, avec interdiction formelle d'y rebâtir sous peine de mort et pour toujours jusqu'à ce que fondent les pierres. À son emplacement fut élevée cette pyramide de pierres scellées sur laquelle on grava rageusement le jugement de mise à mort de Jean et de ses compagnons en octobre 1643. Pourquoi un tel acharnement posthume ? Le roi, la noblesse, l'église et les bourgeois conservateurs avaient eu si affreusement peur pour la survie de leur domination majuscule qu'il fallait effacer l'injure. Nous autres roturiers, nous ne conserverons point l'histoire de nos pères comme les nobles, écrivait l'historien Jules Michelet. Cette histoire des vertus obscures serait souvent d'un haut intérêt. Et oui, le printemps 1638 fut épouvantable. Il y a eu d'abord, pendant les décennies précédentes, des terrifiantes épidémies de peste. Puis il y a eu des inondations noyant les terres, des orages balayant les labours, ravinant les chemins. Puis un été sec, très sec, la disette menace alors que la guerre de 30 ans, guerre européenne, commence ses ravages. À l'automne 1640, le bétail est décimé par une maladie inconnue jusqu'à alors. L'hiver 41 est si profond que les arbres fruitiers gèlent. Les troncs éclatent dans la nuit, fendus au cœur par un froid de loup. Au printemps suivant, des grelons gros comme le poing ravagent les semis. Et l'été, les récoltes seront plus maigres encore que les années précédentes. Et je vous épargne le reste. C'était épouvantable comme les gens mouraient de faim. Le gibier aussi était devenu si rare que le loup est sorti de la forêt, assaillant ce qui reste, humains compris, les enfants, les bergers, les chiens, n'attendant même pas pour ces carnages le dernier souffle des isolés, trop épuisés. Voilà, c'était des écrits de l'époque. Alors, il y a des différents chapitres. On va vous lire juste les titres des chapitres.
La pression fiscale.
Fiscale. Fiscale. C'est-à-dire l'impôt.
Liberté et franchise. Apogée de l'État monarchique. La tension monte. Convergence d'intérêts. La colère gronde en son cratère. Une raclée inattendue.
Là, on est au matin du 6 juin 1643, 15 jours après...
Du 2 juin.
Du 2 juin, oui, pourquoi j'ai dit 6? 15 jours après le décès de Louis XIII.
L'insurrection populaire. Le compromis. Retour de flamme. Le piège. Homme de Dieu. Semaine sanglante.
Et là... On n'est pas sous la commune, on est toujours au XVIIe siècle, à Villefranche de Rouergue.
Un procès politique.
Et donc, c'est le procès de Jean Petit.
Les sentences. Procession.
Le 8 octobre 1643, les cinq martyrs, les meneurs donc de l'insurrection, sont menés à la mort au cours d'une sombre cérémonie moyenâgeuse au milieu de ce XVIIe siècle. Qui verra bientôt partir en fumée ces trois dernières sorcières condamnées dans le nord du royaume en automne 1679 au bûcher.
Le supplice. Jean Petit qui danse.
Et voilà la naissance de la chanson.
Finir l'épuration sociale. La honte éternelle des rois. De nos jours avec les enfants. Se sentir entier. La danse de Jean Petit.
Et la chanson « Jean Petit qui danse ».
Nous danserons et chanterons toujours.
Alors si la minuscule place Jean Petit s'était se trou béant laissé par les victimes dans le temps homogène de la domination, qui semblait nous dire « si dès maintenant nous vivons comme étant déjà libres, cette mémoire des vaincus serait alors l'une des portes où entreraient les révolutions démocratiques du futur, jusqu'à ce que fondent les pierres que l'on a soudées contre nous. Les jours de marché, lorsque le soleil au plus haut éclaire Villefranche, des clochetons légers carillonnent avec élégance depuis le beffroi la joie de vivre entier pendant que la mélodie de Jean Petit déclenche l'envol des colombes depuis les greniers des maisons proches. Ces jours-là, la fiente des oiseaux ne viendra garnir que l'église en une revanche posthume. Ces colombes danseront alors la paix et la liberté à la gloire de tous les Camille, Jeannette et Jean Petit du monde entier.
Il faut dénuder les bergers, les pauvres dogues de papier qui grognent contre nos printemps. Jetons de l'amour à la mer et des chansons dans le vent doux.
Eh bien ça, c'est un extrait de poème de Serge Ujeroyo. Et il y a des annexes, les annexes qui mettent dans l'histoire, enfin dans... comment c'était, les vêtements, l'alimentation, etc. La chapelle des pénitents, la Bastide de Villefranche. C'est un livre à la fois très court et très fouillé que je vous recommande. C'est très facile à lire. Je vous ai lu que les gros titres. Nous avons lu que les gros titres. Jean Petit qui danse, histoire à l'origine d'une chanson pour enfants qu'on chante dans les écoles, je ne sais pas encore, mais jusqu'à la sortie de ce livre qu'on chantait dans les écoles. À ma grande surprise, cette histoire, je la recommande absolument à tout le monde. Franck Thiriot, édition Les Nuits Rouges, 8 euros.
J'étais un bébé savant qui dessinait tout le temps.
Qu'a-t-il bien pu m'arriver? Mes stylos n'ont plus marché.
Par la suite, à mon école, ce fut une vraie catastrophe. Je n'ai eu à mes contrôles
que des zéros par mes profs.
À ne plus pouvoir écrire,
j'aurais même bien pu finir
à 100 ans au CP à force de redoubler.
Ça allait de pire en pire, je ne trouvais pas d'emploi.
Je ne savais pas écrire, tout le monde se moquait de moi. Quel malheur, plus de stylo.
Quel malheur,
je ne peux plus écrire un mot. Quel malheur, plus de stylo. Quel malheur, je ne peux plus écrire un mot.
Et plus tard à mon mariage, hélas, je n'ai pu signer.
Le registre est fou de rage, j'ai fini désespéré.
Monsieur Trouvé, de Saint-André.
Au moment de m'élancer, j'ai vu qu'on avait écrit là où j'allais m'écraser
les lettres du monotapis.
Au miracle, j'ai rebondi,
sauvé par le point du et des stylos par milliers. Ça sont tous mis à danser.
Quel bonheur,
quel bonheur,
des
stylos,
quel bonheur,
quel bonheur.
Je peux écrire plein de mots.
Quel bonheur,
quel bonheur,
des
stylos,
quel bonheur,
quel bonheur.
Je peux écrire plein de mots.
Des stylos de 8 couleurs pour les plus beaux arcs-en-ciel.
Un vrai stylo de chanteur pour faire danser les voyelles.
J'ai recommencé ma vie, j'ai même sauté 22 classes,
toujours à la première place.
J'ai beaucoup, beaucoup écrit. J'ai enfin pu me marier, j'ai même eu beaucoup d'enfants.
Ils ont su écrire avant de parler et de marcher.
Et j'ai trouvé pour finir la plus belle des professions.
Aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis auteur de chansons.
Quel bonheur,
quel bonheur,
des stylos,
des stylos.
Quel bonheur,
quel bonheur,
je peux écrire plein de mots.
Quel bonheur,
quel bonheur,
des stylos.
La prochaine émission des Cailloux dans l'engrenage, on sera tous les deux et ça sera le 20 mai. Nous aurons une invitée de marque qui est déjà venue l'année dernière, qui s'appelle Françoise Tenier et qui nous racontera l'histoire de la chanson pour enfants. En attendant, nous aurons une émission hybride, la 111e émission, et autour des éditions Bande Détournée. Ça sera une émission un peu pour tous les âges. Il y aura d'autres livres. Puis, le 6 mai, ça sera l'émission Compositrice, la 15e, autour d'Irina Emeliantseva. Et suivi de Flémardise, la 114e, avec une autrice de littérature prolétarienne qui, moi, m'a assez bouleversée dans sa lecture, c'est Nildorf. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce, je crois. Eh bien, je vous dis au revoir.
Au revoir.
Et maintenant, l'indicatif, Anne Sylvestre.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elles lavent, elles désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les. Laissez-les.